Chers auditeurs, ceci est une deuxième série que le Seigneur m'a mis dans le cœur de faire concernant la guérison. Cela va probablement faire en tout plus de 200 études uniquement sur le thème de la guérison. Ainsi, les 3000 CD seront rapidement dépassés. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi le thème de la guérison a pris pour moi une certaine importance. J'ai été miraculé cette fois durant ma vie. Ce témoignage prendra un certain nombre de CD, ce qui est beaucoup moins honorable, évidemment, pour ne pas dire honteux. C'est que les promesses de servir le Seigneur ne se sont jamais réalisées pour la raison que je vais essayer d'expliquer en quelques phrases, car il faudrait une dizaine de CD pour cela. Mon père s'est marié 5 fois. Cela a eu des conséquences si graves pour mon enfance et par la suite pour ma vie, qu'il aurait fallu chasser un certain nombre de mauvais esprits. Et en ce temps-là, on n'en parlait pas beaucoup, c'était plus ou moins tabou. Heureusement, cela a pu se faire beaucoup plus tard. Dieu a permis que je puisse le servir à mon grand âge en faisant ce travail bénévolement pour le site internet www.bibleexplique.ch et la phonothèque suisse. Bien sûr, il faut comprendre que j'ai promis au Seigneur de faire ce travail jusqu'à ma mort. Je n'ai pas eu de vacances depuis 25 ans et croyez-moi, je ne m'en plains pas du tout. Il est clair que ce serait vous mentir qu'à mon grand âge, je ne vais évidemment plus marcher comme à 20 ans, ni lever des haltères de 50 kilos. Je constate que ce que le Seigneur me permet de faire, c'est uniquement par grâce et par son amour. Je peux dire qu'il m'arrive parfois d'avoir besoin du médecin, et le médecin est également un serviteur de Dieu s'il est croyant, et cela pour secourir ceux qui souffrent. Notre devoir, c'est également de prier pour que Dieu les bénisse. Chers amis, je peux dire ceci. Voyez-vous, nous sommes arrivés maintenant à la 14e étude concernant la guérison, la deuxième série, et le titre sera « Toute guérison est divine ». En effet, les Juifs murmuraient au sujet de Jésus parce qu'il disait « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Cela a naturellement jeté un froid et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph ? » ?»« Oui, celui dont nous connaissons très bien le père et la mère. » »« Comment donc dit-il ?» Ou ose-t-il dire « Je suis descendu du ciel » Saint Jean, chapitre 6, verset 42. Le fils ignorant de charpentier de village, il n'y a là absolument rien de divin. Oui, mais n'oublions jamais, toute guérison est l'œuvre de Dieu, que ça plaise à certains ou pas. C'est sa manière de recréer, de refaire, de restaurer un monde abîmé en guérissant non seulement les corps, les âmes et les esprits des hommes, mais aussi en guérissant les divisions qui existe entre un parti et un autre, une race par rapport à une autre, une religion et une autre, c'est du très haut, en effet, que vient la guérison. Selon Ecclésiaste, chapitre 38, verset 2. Il n'y a donc rien de plus saint et de plus merveilleux que de guérir un malade par la prière. Car à l'Éternel est la terre et ce qu'elle renferme, nous dit le psaume 24, verset 1. Mais ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas compréhensible qu'elle cesse d'être divine. Les miracles qui avaient lieu il y a une centaine d'années sont ordinaires à l'heure actuelle. Les mystères du temps présent seront compris demain. Il n'y a donc aucune frontière entre ce qui est scientifiquement explicable en termes de pathologie ou de physiologie et ce qui n'est pas encore compris par la science, cela est un terrain possible pour la guérison surnaturelle. Pourtant, cette frontière existe dans l'esprit de nombreux auteurs qui parlent d'intervention divine, et cette intervention divine dans la guérison est donc quelque chose de surnaturel. Comment un Dieu qui n'est pas uniquement au-dessus de tous, mais également parmi tous et en tous, selon Éphésiens chapitre 4, verset 6, l'Éternel, Yahvé l'Éternel, qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, peut-il être cité comme intervenant dans la guérison? Eh bien, n'oublions jamais que le Saint-Esprit de Dieu est en chacun d'entre nous, et cela continuellement, il est donc à l'œuvre en nous, souvent guérissant, soutenant et s'exprimant. Il est là lorsque l'on appelle le médecin. Il est là avant que l'enfant ne soit baptisé. Le médecin et le prêtre, ainsi que le pasteur, sont appelés à coopérer avec cet Esprit Saint qui habite en nous. Il n'y a donc, on peut dire, aucune frontière entre lui et la science. Toute connaissance lui appartient, car sans lui, il n'y aurait pas de science. Chers amis, si par le mot miracle, nous voulons parler d'actes de puissance surnaturelle, qui ne peut être expliqué par la science, et si notre conception de la guérison divine est limitée à ce domaine, alors tandis que la recherche médicale progresse, le domaine de la guérison divine diminuera. Mais si par le mot « miracle » nous parlons de quelque chose de merveilleux, alors le médecin généraliste et le pasteur, dans leur ministère commun pour les hommes et pour les femmes, peuvent nous fournir de nombreux exemples qui nous poussent à rendre grâce à Dieu. Notre Seigneur utilisait le mot « signe » plutôt que le mot « miracle » pour désigner ses actes de guérison, mais ces signes se produisent, oh oui, qu'ils soient explicables ou inexplicables, ces signes se produisent. Oui, croyez-moi, mais ils sont toujours merveilleux. Et l'humilité de l'enquête scientifique et le respect sont essentiels dans leurs études. Examinons un peu les raisons possibles pour lesquelles il est toujours difficile de produire une preuve scientifiquement documentée de cas qui ont été guéris par des moyens spirituels. Premièrement, il n'est pas possible d'isoler un facteur divin. À la lumière de ce que nous avons dit à propos de la nature de Dieu, comment cela se pourrait-il? Jésus lui-même utilisait des méthodes différentes de guérison. Parfois c'était une parole, selon Saint Jean chapitre 4, verset 50. Parfois un geste, selon Saint Matthieu chapitre 8, verset 3. Même parfois de la salive, ça peut nous étonner, selon Saint Marc chapitre 8, verset 23. Une autre fois de la boue apposée, puis ensuite lavée. Vérifié dans Saint Jean, chapitre 9, verset 6. Et à l'heure actuelle, les médecins, les psychiatres et les pasteurs sont des instruments entre les mains de Dieu pour apporter la guérison, que ce soit par les médicaments, par les analyses ou les sacrements. Le genre de cas que les testeurs de miracles recherchent est celui d'un malade qui se présente pour un diagnostic médical et qui a peut-être eu une biopsie révélant une grosseur maligne dont la nature ne peut être contestée et dont l'histoire naturelle est bien connue et qui ensuite reçoit des soins spirituels et aucun autre traitement et qui peut ensuite être suivi médicalement et régulièrement au moins pendant 5 ans pour avoir la preuve que c'était vraiment un miracle spirituel. Un seul cas couronné de succès pourrait être une rémission spontanée, quelle que soit la signification de ce terme. Et la même chose pourrait être dite pour 2 ou 3 autres cas, mais 10 ou 20 ou 100 cas avec un nombre minime d'échecs pourraient être quand même une preuve concluante, me semble-t-il. Ce serait extrêmement difficile de remplir ces conditions, mais si cela était possible, ce serait tenter Dieu. Ce peut paraître bien en tant qu'expérimentation scientifique, mais en tant qu'expérience religieuse, c'est tout simplement puéril. Le type de test du Mont Carmel est antérieur au christianisme, vérifié dans 1 roi, chapitre 18. Et Jésus refusa que ces puissances miraculeuses soient testées au cours de sa tentation dans le désert. Saint Luc chapitre 4 verset 9. On aurait donc tort de vouloir limiter Dieu dans son œuvre de restaurer les hommes et les femmes dans leur totalité. Et cela par un seul canal d'activité. Donc la guérison divine n'est pas une puissance en veux-tu en voilà, c'est une puissance qui est toujours subordonnée à l'amour. Elle n'est pas quelque chose de magique, mais elle est le fruit de la foi et de l'amour. Deuxièmement, la médecine est séparée de la religion. Le pasteur est le pivot du ministère de guérison de l'Église, tout comme le médecin généraliste et celui de la profession médicale, mais ils travaillent rarement ensemble en tant qu'unité. Un pasteur qui impose les mains à un membre malade de sa congrégation ne peut très bien connaître que le diagnostic que ce dernier lui a communiqué. Par exemple, une tache d'inflammation sur le poumon, ou la grippe, un ulcère, des rhumatismes articulaires, ce sont, d'une manière commode, les expressions générales qu'un médecin utilise en attendant des recherches plus poussées ou les résultats d'une thérapie. Mais ils n'ont aucune valeur en tant que preuve sur lesquelles il puisse s'appuyer pour déclarer une guérison divine. Le pasteur n'a accès souvent ni au rayon X ni aux biopsies, sauf dans de rares circonstances, en supposant qu'il souhaite entreprendre une enquête plus approfondie. Et lorsque l'un de ses fidèles revient du dispensaire et qu'il dit « Pasteur, on m'a dit que c'est la tuberculose. Pourriez-vous me faire l'onction d'huile ?» Le pasteur ne demande pas une fois de plus. Ont-ils établi le diagnostic par des rayons X et par les expectorations et peut-être par cobaye, etc. Mais simplement, il élève son cœur dans l'action de grâce, c'est cela. Il élève son cœur, son âme, son esprit, par la prière, l'intercession, dans l'action de grâce, et il poursuit le travail. Et le pasteur et le malade, tous les deux, affrontent la période passée au sanatorium sans inquiétude. Mais parfois, ce séjour au sanatorium ne devient pas nécessaire. Et c'est qu'alors qu'un homme tombe à genoux, alors qu'un autre pense qu'ils ont dû confondre les plaques des rayons X. Troisièmement, les malades n'aiment pas une atmosphère d'incrédulité. Les malades qui ont été spirituellement guéris n'aiment naturellement pas être exposés à des investigations qui sèment en quelque sorte le doute à propos de leur guérison. Une personne guérie spirituellement a déjà tourné le dos à son passé et regarde vers l'avenir avec espoir et reconnaissance. Son attitude peut tout aussi bien être « À quoi ça sert de remuer tout cela maintenant ?» Voyons, à quoi ça sert ? Une longue série d'investigations et les suivis peuvent donc contribuer à bouleverser la foi du malade et à semer le doute et en plus à provoquer une rechute. Tout dépend donc de la manière dont cela est fait, de la personnalité des investigateurs et des malades et du but de leur recherche commune. Chers amis, où essayons-nous d'aller et qu'essayons-nous de prouver que Dieu peut, par exemple, guérir les maladies organiques? et que Dieu guérit les maladies organiques vraiment? Ou essayons-nous de comprendre davantage la façon dont Dieu accomplit ses plans dans le monde avec une compétence toute particulière pour les malades corporels? Qui peut savoir? Le croyant ou l'incroyant? Le croyant cherche toujours à connaître Dieu davantage afin qu'il puisse coopérer plus pleinement avec sa volonté. Il y a presque 50 ans que l'une des premières tentatives a été faite pour réunir ensemble les médecins et les pasteurs, et la déclaration qui découla de cette conférence tenue en, je ne sais plus exactement quelle année, proposait une enquête prudente de l'évidence de cas de guérison divine. La profession médicale s'occupe d'établir la vérité de déclarations largement faites par les guérisseurs, des guérisseurs spirituels et des guérisseurs ayant des dons charismatiques. La guérison, c'est un terrain de chasse, on peut dire de chasse privilégiée, et malheureusement pour toute espèce d'excentrique, d'amateurs en magie, qui sont franchement païens, et pour ceux qui utilisent le nom de Dieu, mais qui ne servent pas du tout sa cause. La médecine de l'Église, eh bien, elles sont toutes deux soucieuses de la vérité, mais un souci exagéré, accompagné de résultats, peut nous aveugler et nous empêcher de voir celui qui est la vérité. Alors tout cela est-il fortuit? Le disciple de Jésus-Christ, il est envoyé pour prêcher le royaume de Dieu, pour guérir les malades et pour baptiser toutes les nations. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, est-il dit dans Saint Matthieu, chapitre 6, verset 33. La santé n'est donc pas une fin en soi, mais un avantage pour être utilisé au service du royaume de Dieu. Edward Wilson, un homme qui s'est donné aux autres, écrivait dans une lettre: je ne supporte pas les gens qui considèrent comme acquis que le but principal d'une personne est d'économiser sa santé et ses forces, sa vue et tout ce qui s'ensuit lorsque elle a 60 ans. Comment peuvent-elles dire si elles iront jusqu'à 80 ans? Je pense qu'il est bien de porter une chose lorsqu'elle est bonne et neuve, en rafistolant les quelques coins lorsqu'ils sont déchirés, plutôt que de la mettre de côté prudemment, année après année, jusqu'à ce que finalement les mythes vont s'y mettre et que vous découvrez plus tard que ce n'est plus métable lorsque finalement vous décidez à le porter. Voyez-vous, le cœur même du message de Jésus, c'est la propagation du royaume de Dieu, par la parole, de prêcher aux gens et par les œuvres de guérir les malades, de leur parler de la mort et de la résurrection. Et la guérison des malades n'était pas simplement un soutien tactique à la foi de l'Église primitive, mais c'était également une preuve visible de la puissance de l'Esprit Saint sur le corps. Et Jésus révéla la nature de notre Père aimant tout aussi sûrement par des actes de guérison que par ses paroles, car sa parole était puissante, selon Saint Luc chapitre 4, verset 36. Et c'est avec la même certitude à l'heure actuelle que nous jugeons de la présence ou de l'absence du royaume de Dieu et de la puissance de la vie de résurrection par la présence ou l'absence d'un ministère de guérison efficace dans l'Église, le corps de Christ. Restaurer les hommes dans leur intégralité est l'une des pierres de touche de l'action divine parmi les hommes. Nous ne devons pas être tentés de ne regarder qu'à la guérison spirituelle et non pas également à la guérison physique. Il est entièrement vrai que la guérison spirituelle vise tout d'abord au manque d'harmonie qui entrave la véritable fonction, de l'esprit à l'intérieur de l'homme, et ainsi libère la puissance de l'esprit et lui permet d'accomplir sa véritable fonction en s'exprimant lui-même dans la guérison et la perfection. Cette guérison intérieure, elle doit aussi être vue à travers la nature globale d'une personne. Oui, dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Car tel est le sens de l'incarnation, que l'esprit s'exprime au travers de la matière. Jésus-Christ restaurait les hommes dans leur intégralité. Et la Sainte Bible utilise le même mot à la fois pour exprimer le salut et cette restauration totale. Ainsi, les actes de guérison ne sont pas simplement accessoires à la tâche principal du prêche, de prêcher l'évangile et de baptiser les nations. Heureux les yeux, est-il dit, qui voient ce que vous voyez. Notez Saint Luc chapitre 10, verset 23. Je répète, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Mais ils sont accessoires dans le sens où l'œuvre pour le royaume vient en premier et la puissance est subordonnée à l'amour. Dans le cas d'un ulcère de l'estomac dû à l'anxiété chez un malade qui ne connaît pas Dieu, de nombreux facteurs contribueront à la guérison. Par exemple, le repos alité, un certain régime, l'alimentation par perfusion et les efforts faits par l'aumônier, le psychiatre ou le fonctionnaire de la santé pour soulager les inquiétudes. La guérison peut être purement physique, suivi d'une rechute. Si les causes profondes ne sont pas traitées, alors le ministère de guérison de l'Église va chercher à rétablir le malade dans toute sa plénitude, ce qui consiste à amener les malades à connaître et à aimer notre Seigneur, à lui donner leur vie pour le meilleur et pour le pire, c'est ce que j'ai fait, et cette conversion est le commencement de la plénitude. Il y a donc des faits à la fois spirituels et matériels qui doivent être vérifiés dans la recherche des conséquences de la guérison divine. La guérison d'une maladie organique telle qu'une pneumonie, une appendice ou de la malaria, cela est un événement quotidien dans les hôpitaux. Une telle guérison se fait par des moyens naturels. La médecine et la chirurgie arrivent à rétablir tout cela. Et assez souvent, le malade rentre chez lui, parfois pas beaucoup plus sage. C'est là le problème. Guéri, oui, mais pas changé intérieurement. Or, Dieu semble à peine être intervenu dans une telle guérison. La plus grande partie du travail des guérisseurs s'effectue à ce niveau-là et rivalise donc avec la médecine en tant que moyen de soulagement, mais chez une personne qui a été guérie spirituellement, la personne toute entière est transformée si elle est guérie par l'action de l'Esprit Saint. Et il y a là certaines particularités qui donnent à la guérison une authenticité spirituelle que le type croyant appréciera instantanément. Premièrement, il y a perte de tout intérêt personnel. On va perdre tous les intérêts égoïstes et personnels, car la personne place Dieu maintenant au centre de sa vie. C'est Jésus-Christ qui est sur le trône. Et le moi, je me trouve à ses pieds, et non pas le contraire. Et Jésus-Christ entre ainsi dans une bonne relation avec son Père Céleste. Étant toujours un enfant de Dieu, il proclame désormais sa filiation. Et il prie en disant « Père, Père, cette perte de tout intérêt personnel est donc également évidente dans son attitude envers la maladie. » Oui, car le malade peut ainsi se remettre totalement entre les mains de Dieu, de sorte que son attitude est désormais remplie d'une confiance totale. Une confiance totale qu'il y ait une guérison ou pas, que ce soit la vie ou la mort, je continue d'aimer mon Sauveur et Seigneur, car c'est lui qui sait ce qui est le mieux pour moi. Deuxièmement, il y a une réserve respectueuse envers la guérison. C'est quelque chose de précieux qui s'est produit, et cette personne n'ira pas ça et là pour se vanter, mais elle utilisera volontairement cette expérience pour encourager les autres et non en tant que spectacle public. Et troisièmement, il y a une vie totalement nouvelle. Gloire à Dieu. Non seulement il y a cette relation envers Dieu, mais il y a également une nouvelle relation avec ses semblables. Il ne prie pas seulement en disant « Père », mais il prie également en disant « Notre Père ». Il y a une nouvelle réorientation sociale. Ce cas d'un infirme par la polio est désormais un membre actif de l'Église et il a établi plusieurs groupes de personnes pour qu'elles prient pour les malades. Ce cas de grosseur maligne a désormais consacré sa vie à aider les autres qui souffrent du mal dont il a lui-même été sauvé. Cette femme, elle fut sauvée pour son mari et pour ses enfants. Et comme elle trime maintenant pour eux, pour la famille. Lorsque nous allons vers Dieu pour être guéris, nous ne savons jamais ce que nous allons recevoir. Mais nous devons apprendre à abandonner nos requêtes et à venir vers lui pour ce qu'il est et non pas seulement pour ce que nous voulons égoïstement ou pour ce qu'il va nous donner. Nous nous donnons à lui, à Dieu, pour ses projets. Et non pas pour nos projets à nous. Et le résultat peut faire basculer nos vies. Mais le désintéressement, l'humilité et la conversion religieuse ne sont pas des faits que la science peut facilement évaluer, car ce sont des faits qu'un être humain peut reconnaître chez un autre. Ils sont la preuve parfaitement valable d'un changement total dans leurs attitudes, un changement spirituel, et ils ont une portée non seulement pour cette vie dans ce monde, mais également pour la vie dans l'au-delà, car cette nouvelle vie est un, on peut dire, vraiment, en allemand on dit, cette nouvelle vie, und das Leben, c'est la vie de l'au-delà, qui est vécue ici et maintenant. Et c'est donc à cet égard-là, que la guérison spirituelle diffère de la guérison naturelle dans sa signification pour l'éternité. Nous devons donc résister à la tentation d'élever la guérison physique à la première place dans nos pensées et dans nos œuvres, car après tout, l'ablation d'un cancer par la chirurgie n'est qu'un événement dans une vie qui est éternelle et l'importance de l'opération doit être estimée par rapport au contexte de l'éternité. Peut-être amène-t-elle le malade pour la première fois à faire face à sa relation avec Dieu, Auquel cas, l'opération qui a accordé au malade un sursis insuffisant de 3 mois et qui a entaché les records de survie du chirurgien était en fait un succès du point de vue de Dieu. Peut-être que l'opération qui accorda 30 ans de plus aux malades, mais, pour mieux tyranniser sa famille infortunée, et qui fournit au chirurgien un excellent cas de figure pour ses étudiants, était un échec du point de vue de Dieu. Pourquoi ? Mais parce qu'elle n'a fait que maintenir le malade dans son attachement désespérément égoïste envers lui-même et ses propres plaisirs. La guérison, elle ne peut pas être considérée comme totale à moins qu'elle ne provienne ou ne conduise, écoutez bien cela, à une vie de disciple qui sera plus engagée. Voyez la différence. Je le répète, la guérison ne peut pas être considérée comme totale à moins qu'elle puisse provenir ou conduire à une vie totalement changée, une vie de disciple qui sera plus engagée pour le Seigneur. Chers amis, nous avons réfléchi à propos de cette vie de disciple plus engagée, une vie donc nouvelle, qui est en quelque sorte le commencement de la plénitude. Mais que en est-il de la puissance des guérisons visibles pour attirer les hommes à Jésus-Christ? Ça, c'est une question sérieuse. Au cours des tentations dans le désert, Jésus a repoussé la tentation de faire quelque chose de spectaculaire pour gagner les hommes. L'entrée dans le royaume et l'adhésion libre du cœur et de la volonté à l'amour de Dieu, elle ne peut jamais être imposée. Et la tendance à produire des guérisons publiques qui seraient spectaculaires de nos jours, dans le climat actuel de l'incrédulité scientifique, ou de produire une série d'exemples minutieusement démontrés pour prouver la puissance de la guérison divine, fera soit échouer son propre but ou conduire les hommes vers les mauvais royaumes. Voyez-vous, Dieu n'agit pas ainsi. Et Jésus a repoussé le désir des pharisiens qui, eux, réclamaient un signe parce que la puissance de Dieu est toujours subordonnée à son amour. Il nous aimera et il fera en sorte que nous l'aimions. Mais l'amour intéressé ne ressemble pas à l'amour qui est donné et qui est reçu gratuitement. Qu'il descende de la croix, ont-ils dit. Et alors là, nous croirons en lui, peut-être. Saint Matthieu, chapitre 27, verset 42. Ainsi le monde veut tout d'abord un signe, voilà. Mais Jésus enseigne assez régulièrement par la Sainte Parole et par les œuvres que la foi en Dieu doit venir en premier et que les signes suivront. En premier, il doit y avoir la foi en Dieu. Il disait, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Saint Marc, chapitre 11, verset 24. Et à Thomas, il a dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui malgré tout ont cru. Johannes, Saint Jean, chapitre 20, verset 29. Imaginez également les 10 lépreux alors qu'ils allaient se montrer aux prêtres. Il leur suffisait de regarder leurs mains pour voir qu'ils étaient toujours lépreux. C'est pas drôle, ils étaient encore lépreux. Mais ils ont cru et ils ont obéi malgré tout ce qui était visible. Et tandis qu'ils allaient, donc vers la synagogue, hein, pour se montrer. Là, ils furent tout à coup purifiés, selon Saint Luc, chapitre 17, verset 14. De même aujourd'hui, après une prière sincère, le malade devrait sentir qu'il a reçu une libération intérieure de la puissance du péché et que ce manque d'harmonie dans l'âme qui est la maladie véritable, et c'est là la maladie véritable, et qui est souvent la cause de sa maladie physique, et qu'elle a maintenant été guérie dans son ensemble. Sa vie de prière devrait donc désormais être centrée sur l'action de grâce pour cette guérison et sur une confiance calme et expectative dans la puissance et dans l'amour de Dieu agissant à l'intérieur de lui pour toute sa plénitude, corps, âme et esprit, et l'amour de Dieu agissant à l'intérieur de lui, et je répète, pour sa plénitude. Il ne devrait y avoir aucune enquête anxieuse, on peut dire, de détails à propos de sa condition, et aucune conversation à propos de ses symptômes. Ne nous occupons pas trop de nos symptômes, bien qu'ils soient là. La foi, elle croit d'abord et voit ensuite. Et cette joyeuse confiance expectative dans l'amour de Dieu et dans la puissance agissante à l'intérieur même qui lui permet d'accomplir toute son œuvre de guérison. Et c'est également la méthode de la science d'étudier et d'établir une théorie, puis de la tester. La croyance tout d'abord, puis la preuve en l'utilisant. La façon de procéder du monde, c'est la suivante. Voyons d'abord, mais Jésus-Christ, lui, il a frayé un chemin vers une foi plus profonde qui peut faciliter un revirement de cette manière de vivre. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Saint Jean chapitre 14, verset 11. Chers amis, nous voyons les œuvres de guérison de Jésus-Christ comme étant une partie intégrale des bonnes nouvelles de son royaume. Donc, une partie essentielle, absolument essentielle, de sa révélation de la nature de son Père. De même, à l'heure actuelle, la guérison est une partie intégrale de la mission de l'Église envers le monde, une partie essentielle de son enseignement aux hommes et aux femmes à propos d'un Dieu d'amour et d'un Sauveur qui est mort, qui est ressuscité et qui vit dans son Église puissamment, et cela pour sauver et pour restaurer tous ceux qui en ont besoin. Parce que les œuvres de guérison sont en premier lieu le résultat de la foi et non des démonstrations de puissance pour inspirer la foi. Elles apparaîtront bien sûr comme étant les fruits d'un ministère d'obéissance, d'une Église qui est fidèle. Nous savons que Jésus-Christ mentionna la foi selon saint Matthieu, chapitre 17, verset 20, et il mentionne la prière, saint Marc, chapitre 9, verset 29, la prière comme étant nécessaire pour l'œuvre de la guérison et l'obéissance à la volonté de son Père. Elle est donc évidente dans sa propre vie. Et ces choses sont requises d'une Église qui est fidèle. Et le ministère de guérison est un don collectif à l'Église. Tout comme la maladie et la souffrance sont également collectives et non pas seulement individuelles. Aussi est-ce en tant que représentant de l'Église que le pasteur ou le prêtre parcourt sa paroisse pour réconforter le mourant, encourager la veuve, guérir et apaiser les malades, apporter le pardon à celui qui se repent, et l'amour généreux et débordant de Dieu, avec une charité égale entre les bons et les méchants. Une grâce à bon marché est le grand désir de tout homme aujourd'hui, et dans le domaine de la guérison spirituelle, il y a des nombreux loups qui sont déguisés en agneaux, qui offrent soulagement et réconfort. Les fausses perles, elles peuvent être attirantes et même d'une certaine valeur, pourquoi pas. Mais quel substitut tragique de la perle de grand prix. La grâce, elle n'est jamais bon marché, et une vie de disciple est coûteuse, croyez-moi, j'en sais quelque chose, car le signe de la foi chrétienne, c'est la croix, et non simplement un lit de plumes, ou être entre deux palmiers, balançant sur un hamac, doré au soleil. La foi, la prière et l'obéissance à la volonté du Père sont les occupations dans la vie d'une Église qui la fortifieront dans sa mission de prêcher le royaume et de guérir. Pour terminer cette étude, voyons quelles sont les conditions. Il nous reste à considérer le genre de conditions sous lesquelles la guérison surnaturelle devrait être examinée scientifiquement pour obtenir la révélation d'une vérité plus poussée à propos de Dieu et de ses plans pour nous. La guérison d'une maladie organique par des moyens spirituels et son investigation, cela requiert un environnement chrétien et surviendra à l'expansion du royaume de Dieu. Le caractère familier nourrit le contentement, mais pas pour celui qui aime Christ. Une miche de pain, un verre d'eau, une fleur qui croît dans les champs, c'est merveilleux. Même un moineau, c'est merveilleux. Tout cela sont remplis d'une signification profonde, car ils nous permettent de combler le vide entre le monde des sentiments et le monde de l'esprit en élevant nos cœurs vers Dieu. Donc le médecin généraliste qui injecte le vaccin contre la polio, le pasteur, le prêtre qui impose les mains sur une tête, l'infirmière prenant la température, le psychiatre interrogeant patiemment, ainsi que l'équipe au complet. Tous vivent, donc ils vivent dans deux mondes, qu'ils le sachent ou pas, c'est-à-dire le monde des sens et le monde de l'esprit. Dieu les utilise absolument tous et ils n'ont que à élever leur cœur vers lui, vers Dieu, dans l'émerveillement et dans l'amour, pour passer de cette terre au ciel et pour amener la puissance du ciel sur la terre. Voyez-vous ? Nous allons maintenant terminer ensemble par la prière. Et cette prière, vous pouvez la réécouter, en noter quelques phrases et la compléter selon vos propres besoins. Alors prions maintenant. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour l'Esprit Saint de Dieu, car désormais un autre jour de ton énergie créative est à l'œuvre maintenant, à l'œuvre sans cesse, en toutes choses. Et je te remercie pour les preuves de ta puissance indomptable que même moi, une humble créature, j'ai vu et j'ai connu ce jour comme chaque jour. Je te remercie pour ta beauté, ta sagesse, ta sainteté, ta force, ta paix et ton amour qui opère d'un pas ferme dans le grand univers autour de moi et désormais de manière encore plus merveilleuse également en moi. Bien que souvent, par mon péché, ma folie, ma fierté et mon estime de moi, j'ai placé une barrière entre ton but pour moi et moi-même, néanmoins ton amour créatif a toujours persisté à œuvrer pour mon bien à travers toutes mes maladresses incontrôlables et œuvre même maintenant. L'éternité est bien trop courte pour exprimer toutes tes louanges, mais dans ce moment bien trop bref de rémémoration, je veux exprimer ma simple gratitude pour l'augmentation de la grâce, pour la croissance de la santé, pour la nouveauté de l'être, oui, pour toute l'œuvre de bonté que tu as faite et que tu fais encore dans mon âme, dans mon esprit et dans mon corps. Amen. Amen. Et chers amis, Dieu voulant, à demain matin, la suite de cette série. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez jamais, il vous aime. Et notre devoir, c'est de l'aimer également. Au revoir.